Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Alors, Mathieu, hier, lorsqu'on s'est parlé, le jugement concernant la loi 21 venait juste de tomber, donc on s'en est parlé à chaud. 24 heures plus tard, on va s'en parler à froid. T'étais très fâché hier. Écoute, premièrement, comment tu réagis? Je sais pas si tu as vu Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, qui dit « Si moi, je deviens premier ministre, je ne reconduirai pas la clause dérogatoire. »
Ben, on le savait, hein, c'était sa position déjà. Donc, elle nous explique qu'en dernière instance, l'Assemblée nationale ne peut pas fixer les paramètres de l'intégration au Québec et qu'elle doit évoluer strictement dans les paramètres de la Constitution que nous n'avons pas signée et du multiculturalisme canadien qui est au cœur de cette Constitution. Nulle surprise ici. Ensuite, il y a Mme Massé. Mme Massé, qui tient un discours assez particulier pour une souverainiste qui consiste à reconduire ce préjugé voulant que les francophones soient fondamentalement, on pourrait dire, répressifs sur le plan des droits, et que les anglophones soient plus ouverts à la diversité, plus ouverts sur le plan des droits. Donc, elle vient nous dire, finalement, elle vient légitimer le jugement de la Cour supérieure en disant le modèle anglophone est supérieur au modèle francophone et nous devons lorgner vers ce modèle. La CAQ, puisque je fais le fils de bilan des quatre, la CAQ vient nous dire, elle nous offre une position un peu molle, hein. C'est-à-dire fait semblant de se réjouir du jugement, mais nous dit que sur quelques détails, elle s'en désole. Non, c'est fondamental ce qui s'est passé, on l'a dit hier, la Cour supérieure vient institutionnaliser la logique de la partition ethnique au Québec. Quant au Parti québécois, je ne dis pas ça pour le flatter, mais il se tient dans la crise, il ne s'est pas couché. Cela dit, il est moins puissant qu'il ne le devrait pour peser dans le débat, mais il tient quand même une position ferme. Il n'en demeure pas moins qu'on aurait souhaité une réaction plus vive de notre classe politique pour défendre les droits de l'Assemblée nationale et non pas des gens qui finalement finissent par flirter avec le gouvernement des juges.
Mais on a beaucoup parlé de la Charte des droits et libertés canadiennes en disant que ça nous verrouillait, mais Marc-André Blanchard, à sa décharge, a tenu compte aussi de la Charte des droits québécoise qui a été adoptée par des Québécois, aussi dans son jugement.
Oui, mais avec cette singularité, il ne faut jamais l'oublier, que la Charte québécoise des droits, la Charte des droits et libertés, eh bien, c'est une charte que l'on peut modifier par décision de l'Assemblée nationale, premier élément. Autrement dit, nous ne sommes pas devant un document qui a la même portée, qui a la même signification que la Charte canadienne, qui, elle, est un texte constitutionnel qui vient surplomber, qui vient anéantir même à certains égards la souveraineté parlementaire. Deuxièmement, il faut quand même noter qu'il y a une forme de, appelons ça, d'imagination juridique capricieuse chez Marc-André Blanchard pour être capable d'instrumentaliser la charte pour en arriver aux conclusions, la charte québécoise pour en arriver aux conclusions politiques qu'il voulait. Troisième élément, il faut savoir en dernière instance quelle est la source de la légitimité de nos décisions collectives. Je suis, quant à moi, partisan d'un primat du politique plutôt que d'un primat du gouvernement des juges. Le politique québécois, après 10 ans, 12 ans de débat autour de cette question-là, a cherché à travers la loi 21 à fonder un modèle d'intégration adapté à la réalité québécoise. Eh bien, on a ici des juges militants, des juges idéologiques qui instrumentalisent le droit et qui font des pirouettes juridiques pour, dans les faits, désubstantialiser la politique québécoise, désubstantialiser l'Assemblée nationale. Je crois qu'en dernière instance, c'est un jugement politique.
Écoute, je vais dire une bonne chose sur la Constitution canadienne. Je veux pas que tu fasses une crise cardiaque, mais je suis content que la Constitution canadienne protège les droits des minorités linguistiques. Pourquoi? Ben parce que chaque fois qu'on sabre dans les universités, par exemple, ou les programmes d'éducation francophone en Ontario ou ailleurs, on est en maudit ici à juste titre. Donc, c'est bien de protéger. Si on protège les minorités francophones dans le reste du Canada, bien sûr qu'il faut protéger la minorité anglophone au Québec. Ça, je pense qu'on s'entend. Là où j'ai de la difficulté, c'est qu'on leur protège pas seulement le droit d'être éduqué dans leur langue, c'est un droit fondamental, mais là, on dit que ta religion, le respect des religions et des signes religieux fait partie de la culture anglophone. Et c'est là où je comprends pas vraiment.
Mais bien sûr. Mais c'est là le problème. C'est que finalement, les droits linguistiques sont transformés en base de droits ethno-culturels religieux différenciés. Ah bon? OK. Donc là, on n'est plus dans la logique des droits linguistiques. Ensuite, faut-il rappeler, puis ça, moi, je tiens à le rappeler, que il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de, on pourrait dire, d'effet de miroir entre la communauté anglophone au Québec et les communautés francophones au Canada. Dans les faits, la minorité anglophone au Québec appartient à la majorité anglophone canadienne, elle appartient à la majorité anglophone continentale, et elle est en plus dans un État non souverain, un demi-État relativement impuissant, qui a des pouvoirs assez limités finalement. Donc la Constitution canadienne, oui, en fait les Québécois par eux-mêmes, les souverainistes, faut jamais oublier les débats de la fin des années 60 avec René Lévesque, François Aquin, les souverainistes ont fait du respect des droits de la minorité historique anglaise un élément central de leur doctrine. Mais c'est plus de ça dont on parle ici aujourd'hui, c'est qu'on instrumentalise ce droit pour, dans les faits, démanteler la possibilité même d'avoir un monde commun entre tous les Québécois, quelle que soit leur langue d'origine, leur langue maternelle. Donc là, c'est quand même cette idée qu'il y a deux Québec dans un. C'est ce monde de partitionnisme ethnique qui s'appuie sur les droits linguistiques. En dernière instance, c'est le pouvoir qui décide de diviser les Québécois les uns contre les autres en contestant la légitimité de l'Assemblée nationale.
Et quand tu dis là, il faut pas faire un effet miroir entre les minorités linguistiques francophones au Canada et la minorité anglophone au Québec, même Erin O'Toole est d'accord avec toi. Tu te souviens le discours qu'il a fait en disant ben c'est faux, les minorités francophones au Canada sont beaucoup plus vulnérables que la minorité anglophone au Québec.
Oui, c'est une forme de reconnaissance tardive, hélas. Hein? C'est-à-dire que moi, je suis toujours frappé par ceux qui arrivent après le désastre et qui se présentent comme des modèles de lucidité. Je veux dire, aujourd'hui, dans la réalité des choses, le français hors Québec, il est dans une situation d'extinction. C'est ça la vérité des choses. Au Québec, il est en situation de croissance, l'anglais. Donc la seule situation, si on voulait vraiment, vraiment, vraiment au Canada, là, on se dit l'indépendance se fera pas, mais on veut quand même reconnaître les droits différenciés du Québec en matière linguistique, on accepterait que le Québec se dérobe à la loi fédérale sur les langues officielles. On accepterait que le Québec ait sa propre politique d'immigration. On accepterait d'institutionnaliser une citoyenneté québécoise. On accepterait de redéfinir les politiques de financement des universités et des cégeps pour s'assurer que la dynamique institutionnelle québécoise favorise le français. Mais on fait rien de tout ça. Mais on accepte tardivement de reconnaître la fragilité du français. Merci pour votre lucidité tardive, messieurs, dames, mais là, on est rendu au moment de l'action. Et c'est pour ça que je pense qu'au Québec, en ce moment, il y a par ailleurs un réveil linguistique. Il faut bien le noter. C'est un réveil linguistique qui est étonnant à certains égards, mais qui est bien réel autour de la question du cégep, autour de, plus largement, je pense, la question dont on sent bien que la situation, il y a une forme d'effondrement linguistique dont nous sommes contemporains. Et on se dit, faut faire quelque chose. S'agit-il du premier cri d'une renaissance ou d'un dernier cri d'agonie? Je ne le sais pas, mais je veux néanmoins voir dans cette espèce de sursaut la marque d'une action prochaine.
Mais c'est bizarre aussi parce qu'il y a quelque chose d'insultant dans ce jugement-là en disant pour les anglophones, c'est très important le respect des droits fondamentaux, le respect de la religion, alors que pour les francophones, c'est pas important, eux autres. Ça fait pas partie de leur culture.
Ça reconduit le préjugé trudeauiste sur les francophones qui laissaient eux-mêmes écraseraient les droits des minorités. C'est pas qu'on écrase les droits des minorités, c'est qu'on aborde la société avec une autre philosophie, avec une autre lecture de la société. On ne consent pas à cette espèce de communautarisme, de fragmentation communautariste. On croit au commun. On pense que la religion ne doit pas déborder toujours dans l'espace public de mille manières. On pense que la vocation des nouveaux arrivants, c'est de rejoindre le peuple québécois et non pas de dégrainer la société québécoise en mille communautés sur une base raciale et religieuse. Bon. C'est une autre lecture du monde. Le Québec porte sa propre vision du monde en Amérique. Bah, mais ça, apparemment, ce serait la marque distinctive, communautaire, régressive, contre laquelle on brandit l'universalité tolérante anglophone.
Là, bon, jugement totalement déplorable. Et en terminant, écoute, je veux dire aux gens que tu es à Paris, tu fais la promotion de ton livre, et si vous voulez voir comment Mathieu se défend à Paris, parce que les émissions de débat là-bas, c'est pas comme ici, là. C'est vraiment, c'est corsé et tout ça. On peut déjà là, te faire quelques émissions. Sophie, ma conjointe, t'a entendu, je pense avec Natacha Polony, ça se peut-tu?
Oui, c'était avec Ali Badou à France Inter, donc la grande radio du service public, où j'étais samedi dernier avec un animateur qui, disons, témoignait d'un scepticisme marqué. En fait, l'animateur est normalement assez neutre dans cette émission. Et là, sur ce coup-là, il a décidé d'être très militant, comme je lui ai fait remarquer en ondes. Mais en ce moment, chaque jour, je fais 2 ou 3 émissions pour assurer la promo du livre. Donc, soit je fais des entrevues, soit je participe à des émissions de débat.
On peut voir ça, on peut voir ça sur Internet, mais on peut voir ça sur Internet, soit à la télé ou à la radio, écouter ça. Mais Sophie a dit que t'étais super bon avec Natacha Polony. Merci beaucoup, Mathieu. Salut, bye.